Et le journal de Sébastien Legeni, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une grosse soirée en perspective pour les parieurs avec une belle affiche à l'Euro de football France-Portugal. Les paris sportifs qui rongent certains jeunes des quartiers populaires au point d'inquiéter les autorités. Reportage à suivre. Les chiffres de l'épidémie de Covid toujours à la baisse, sauf dans un département, les Landes, où le taux d'incidence remonte à cause du variant Delta dit brésilien. Explication à suivre. À suivre également pourquoi l'entreprise Adrexo, chargée de la distribution des documents électoraux, a-t-elle échoué au premier tour des régionales. Nous serons également au Pérou. Le racisme flambe contre les Indiens pauvres qui ont voté pour un candidat de gauche à la présidentielle. Et du cinéma pour terminer avec un film coréen qui fait un carton aux États-Unis.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes aujourd'hui, c'est, je vous le rappelle, le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune.
France Inter.
Chaude ambiance ce soir à la Puskás Arena de Budapest.
Oui, 30 degrés annoncés au coup d'envoi de France-Portugal. Ce soir, un stade plein avec plus de 7500 supporters français attendus. Et de l'autre côté du poste, des millions de téléspectateurs comme vous, Nicolas, qui pour certains d'entre eux vont miser cher sur les bleus ou sur les rouges et verts. Les paris sportifs cartonnent en effet depuis le début de l'Euro de football. Et les publicités ciblent délibérément les jeunes des cités, au risque de faire basculer certains d'entre eux dans la dépendance. C'est un reportage signé Nicolas Perronnet.
Choisis le roi dans le Val-de-Marne. Depuis le début de l'Euro, le bar tabac au pied des tours diffuse tous les matchs. Sofiane, ticket à la main, les yeux rivés sur l'écran.
Quand je travaille pas, je joue, toi, tellement il n'y a rien à faire. C'est comme ça, ça, c'est de la drogue.
Matraquage publicitaire avant, après les matchs, à la mi-temps. En moyenne, le budget publicitaire des sites de Paris a augmenté de 25% pour l'euro.
Grosse cote, gros gain, gros respect.
Un marketing qui reprend tous les codes de la cité. Slogan, graphisme, casting, cela inquiète Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de l'Autorité nationale des Jeux.
Ils ciblent des populations dont on sait qu'elles sont plus vulnérables que les autres. Pour des populations de jeunes qui rêvent, c'est effectivement quelque chose qui peut marcher.
Et qui peut faire des ravages. Kylian, la trentaine, il vit en Seine-Saint-Denis. En quelques mois, il a perdu plus de 60 000 euros.
De fil en aiguille, des dettes, des choses illégales que j'ai fait pour compenser les pertes. Je perds, alors je joue plus pour gagner.
Il y a 10 ans, 7% des personnes qui faisaient appel à l'association SOS Joueurs étaient des parieurs sportifs. Aujourd'hui, ils sont 28%. Et les deux tiers ont moins de 30 ans.
Nicolas Perronnet, autre match à suivre ce soir à Allemagne-Hongrie, à Munich, dans une ville aux couleurs arc-en-ciel des fiertés LGBT+.
L'ambiance autour des stades, Sébastien, 7h32, qui inquiète par ailleurs l'OMS pour des raisons sanitaires.
Trop de relâchements avant, pendant et après les matchs. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre l'augmentation des cas de Covid dans les villes qui accueillent l'euro. En France, pas de match de l'euro, mais un département qui inquiète aussi les autorités, malgré des chiffres en baisse sur l'ensemble du territoire français. Ce département, ce sont les Landes, le plus fort taux d'incidence du pays, près de 52 cas pour 100 000 habitants. Et ces derniers jours, un cluster dans un EHPAD de Ponton sur l'Adour, en cause de variant Delta. Explication avec Jade Péchira.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'une partie de ces nouveaux cas se retrouve dans une population censée être vaccinée, les plus de 90 ans. Or, plusieurs études tendent justement à montrer que le vaccin est moins efficace contre le variant Delta. Mais Pascal Crépé, épidémiologiste à l'École des hautes études de santé publique, préfère voir le verre à moitié plein.
Cette efficacité, elle reste élevée, notamment chez les personnes qui sont complètement vaccinées et qui ont donc deux doses de vaccin.
Sauf que ce variant Delta est aussi plus transmissible.
Malheureusement, il n'est pas étonnant qu'une fois installé sur un territoire, eh bien, il prenne le dessus sur le variant Alpha et qu'il fasse remonter les incidences.
La bonne nouvelle, c'est que ces cas chez des personnes vaccinées ne provoquent pas forcément plus d'hospitalisation, jusqu'à maintenant en tout cas.
La protection n'est pas complète, même quand on est vacciné, contre ces formes graves, ces hospitalisations, voire ces morts. Le risque d'hospitalisation est divisé par 10, ce qui est déjà important, mais il n'est que divisé par 10. Et donc, si le niveau de circulation devient important, on risque d'avoir des personnes hospitalisées, même vaccinées.
Et selon lui, la situation dans les Landes est probablement un avant-goût de ce qui attend le reste de la France dans les semaines et les mois à venir.
Jade Péchira au chapitre Covid, encore la vaccination américaine qui plafonne. La Maison-Blanche n'atteindra pas son objectif de 70% d'adultes vaccinés pour le 4 juillet. Jour
de fête nationale aux États-Unis. C'est une curieuse découverte qu'a fait la police municipale de Sartilly dans la Manche il y a 2 semaines. 19 000 enveloppes de profession de foi retrouvées dans des poubelles. En cause, une employée d'Adrexo, l'une des deux sociétés avec la Poste chargée de distribuer les programmes des candidats aux élections régionales. Adrexo, clairement montré du doigt depuis le week-end dernier, convoqué par le ministre de l'Intérieur. Adrexo, une entreprise endettée, déficitaire et sous-dimensionnée pour une telle mission, Yann Gallic.
Spécialisée dans la distribution des prospectus publicitaires, cette société privée est censée acheminer les documents électoraux dans une cinquantaine de départements pendant les 4 prochaines années. Un marché évalué à près de 45 millions d'euros, explique Philippe Viroulet. Il est responsable d'agence et délégué syndical chez Adrexo.
Adrexo est une des entreprises en France qui détient la licence postale. Il y a assez peu d'acteurs sur le territoire qui peuvent répondre à ce type d'appel d'offres. Et à notre connaissance, il n'y avait que la Poste et Adrexo.
Selon Philippe Viroulet, l'entreprise n'est pas structurée pour assurer une telle distribution. Adrexo emploie 17 000 salariés, mais la plupart sont à temps partiel. Sachant que la société connaît de grosses difficultés financières, elle est même placée sous la surveillance du Comité interministériel de restructuration industrielle, un organisme piloté par le ministère de l'Économie pour aider les entreprises en difficulté.
L'entreprise est très connue du ministère des Finances depuis de nombreuses années, avec une dette aujourd'hui colossale. Le gouvernement, plutôt que de donner des aides directes, a peut-être souhaité, en fournissant un travail, permettre comme ça à l'entreprise de sortir la tête de l'eau.
Lors de l'appel d'offres, le choix s'est fait uniquement sur la base de critères tarifaires et techniques, affirme-t-on Place Beauvau. Mais le ministère de l'Intérieur pourrait remettre en cause l'attribution de ce marché public après le second tour des régionales.
Le ministre de l'Intérieur qui doit être auditionné sur ces bugs de distribution aujourd'hui par la commission des lois du Sénat. Par ailleurs, on connaît désormais toutes les affiches pour le second tour de dimanche. Il n'y aura qu'un seul duel en PACA entre Renaud Muselier et Thierry Mariani. Dans les 12 autres régions, ça se jouera avec 3, 4 ou même 5 listes. À noter que dans les Hauts-de-France, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti appelle à voter pour Xavier Bertrand sans état d'âme, dit-il sur son compte Twitter. La France n'en a pas fini avec les orages. Météo France a placé 2 départements en vigilance orange avec risque de crue dans l'Orne et l'Eure. L'Oise repasse en vigilance jaune. À Beauvais, le lycéen de 17 ans emporté par la rivière Thérain n'a toujours pas été retrouvé. Tous les établissements scolaires de l'Oise toutefois rouvriront demain. On parlera gros sous aujourd'hui à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit la présidente de la Commission européenne de Bruxelles, Ursula von der Leyen, pour donner le feu vert de l'Europe au plan de relance français, financé en partie par des subventions européennes. Un premier chèque sera signé dès le mois prochain. Delphine Simon.
Les premiers euros arriveront cet été, prévoit Bercy, sans doute même dès la mi-juillet pour la Commission européenne. Un premier chèque de 5 milliards d'euros, 13% de l'enveloppe globale allouée à la France. Il faut aller vite. C'est en substance que dit le projet de texte final du sommet européen en fin de semaine. Les élèves ont remis leur copie fin avril. Comme à l'école, une note A, B ou C est attribuée par les examinateurs. Il faut recevoir 7 A sur 11 pour que le plan reçoive l'aval de Bruxelles. Reste que ce plan prend du retard. Il y a quelques jours seulement, l'UE a commencé à s'endetter. 20 milliards d'euros de dettes levées sur les marchés, une première. Un retard qui n'a rien de grave puisque la France continue de se financer à des taux toujours très bas. Sans attendre la contribution européenne, plus du tiers du plan de relance est déjà engagé. Des projets sélectionnés depuis belle lurette qui dopent la reprise. Avec 5,8% de croissance prévue cette année par la Banque de France, l'économie devrait retrouver son activité d'avant le Covid plus tôt que prévu, début 2022.
Delphine Simon.
Il est 7h38, le Pérou, Sébastien, en proie à un climat de haine inquiétant depuis les élections présidentielles.
Les élections qui se sont terminées il y a 2 semaines maintenant, mais qui n'ont toujours pas de vainqueur officiel. Le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, est arrivé en tête avec 44 000 voix d'avance, mais son adversaire de la droite populiste et ultralibérale, Keiko Fujimori, conteste ce résultat. Des centaines de militaires pro-Fujimori ont même manifesté hier dans les rues de Lima, sabre à la ceinture. Ils exigent l'annulation de 200 000 votes pour de supposées fraudes dans les régions des Andes et d'Amazonie, des régions pauvres et rurales qui ont voté très largement à gauche et qui font l'objet d'une véritable vague de haine raciste. Reportage à Lima de Viloen Minos Boileau.
Depuis plusieurs semaines, les partisans de Keiko Fujimori se déchaînent contre Pedro Castillo et ses électeurs.
Pedro Castillo ne nous représente pas. C'est un ignorant qui ne connaît même pas les tables de multiplication et n'a jamais ouvert un dictionnaire.
Mais les commentaires sont encore plus rudes sur les réseaux sociaux où l'on peut lire des propos racistes d'une violence inédite tels que Pedro Castillo est une ordure de cholo, un terme péjoratif pour désigner les Péruviens d'origine amérindienne, ou encore exterminons les provinciaux qui ont voté pour lui et violons leurs femmes. Tania Pariona, ancienne députée indigène, impute ce torrent de haine à la candidate Keiko Fujimori.
En appelant à faire annuler le vote des populations indigènes, des Andes et d'Amazonie, elle a fait ressurgir une vision coloniale et raciste. Pour Madame Fujimori et ses partisans, les habitants des zones rurales sont des ignorants qui ne savent pas voter.
Comme Tania Pariona, des centaines de Péruviens venus des quatre coins du pays manifestent depuis plusieurs semaines à Lima pour veiller à ce que leur vote soit respecté et rejettent les insultes et menaces dont ils font l'objet. Le climat de haine qui règne au Pérou a suscité des réactions jusqu'au sein de la communauté internationale. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a condamné les discours de haine et la discrimination et a appelé tous les Péruviens à accepter le résultat du scrutin. Lima, Viloen Munoz-Boileau, France Inter.
On termine avec un film coréen qui casse la baraque à Hollywood, Minari de Lee Isaac Chung, l'histoire d'une famille d'immigrés venus s'installer dans l'Amérique profonde, aujourd'hui au cinéma en France, Corinne Pellissier.
Ils ont été des milliers, comme son père, à fuir la Corée pour venir s'installer au fin fond de l'Arkansas dans les années 80. Pas plus de $200 en poche, mais le rêve américain bien chevillé au corps. Un mobile home, un terrain vague, et dans leur tête le début de la fortune pour la famille de Lee Isaac Chung, qui est né lui à Denver. Car le petit garçon de Minari, c'est lui. Et c'est son histoire qu'il a choisi de raconter à la manière d'un roman de Steinbeck. Une œuvre autour de la classe ouvrière, de ses espoirs, douchée dans le film par le choc des cultures et un terreau pas toujours très fertile. Ce cinquième film de la carrière du réalisateur est pourtant très lumineux, rempli de personnages forts, le père Jacob, incarné à l'écran par Steven Yeun dans son meilleur rôle, ou encore la grand-mère débarquée de Séoul comme une bouffée de fantaisie, saluée d'un Oscar pour la comédienne Yoo Young-yoon. Beauté formelle enfin de ce film délicat, tourné aux trois quarts en langue coréenne, qui offre à la communauté asiatique d'Amérique une visibilité enfin valorisante après le regain de haine et de racisme post-Covid.
Voilà, Minari de Lee Isaac Chung sorti aujourd'hui dans les salles obscures, Nicolas.
Merci Sébastien Legénie. La politique à suivre.